Marco Douiman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 16 janvier 2020 et voici les grands titres de cette édition. L'agence de promotion des investissements déclare que son rôle ne se limite qu'à l'enregistrement d'une société, qu'il revient aux organes de régulation de voir si telle société se conforme à la loi. Allusion faite ici à CrowdOne, qui a dit avoir été agréé par l'API. Et les filles encore élèves qui tombent enceintes ne devraient pas en principe bénéficier de la gratuité des soins lors de l'accouchement, d'après le président du Sénat, ce mercredi, lors de sa visite en commune Makamba. Il explique que cela fait perdre à l'État les moyens qui étaient destinés aux femmes, proprement dites. Et dans la chronique Parle et rassure-moi, on vous proposera la deuxième partie sur les conséquences des messages déshumanisants. Et on parlera aussi de la femme dans son rôle de prévention des conflits dans les ménages. Voilà pour les grands titres.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Bonjour, l'agence de promotion des investissements déclare que son rôle ne se limite qu'à l'enregistrement d'une société créée, ce qu'elle compare à l'état civil. Serge Nsabimana, directeur ad intérim de l'API, le dit après l'annonce de la société CrowdOne qu'elle a été agréée par cette agence. Il informe cependant que cette agence oriente ses sociétés vers les institutions de régulation pour se conformer à la loi et que la société CrowdOne n'a pas respecté ses missions. On l'écoute, il répond aux questions de Linibel Nivikil.
L'agence de promotion des investissements procède à l'immatriculation des sociétés. Donc, quand on peut venir créer la société, nous, c'est ça notre travail, la création des sociétés. Après, suivant votre domaine où vous êtes souvent obligé de voir pour respecter la réglementation. Si vous travaillez dans le domaine médical, il y a des autorisations au ministère de la Santé publique. Si c'est dans le domaine des microfinances, il faut aller à la Banque de la République du Burundi pour respecter la loi. Si c'est dans le domaine des mines, on va à l'OBM, etc. Quand il n'y a pas respect des activités et respect de la loi, le ministère public peut saisir pour la protection. On ne peut pas prétendre être agréé à l'API. Quand il y a des changements d'activité, il faut venir faire des modifications ou compléments d'activité. On ne peut pas prétendre commettre une infraction parce qu'on a une carte d'identité, par exemple. Avoir une carte d'identité, ça ne vous autorise pas de commettre une infraction. Ou être enregistré chez l'officier d'état civil, ça ne vous autorise pas de commettre des infractions. Je pense que cette société s'est fait enregistrer à l'agence de promotion des investissements. Il n'y avait pas la mission de faire échange de monnaie ou travailler comme une institution de microfinance ou autre. Je pense que le secteur d'activité était clair. Et même si dans les missions, il y avait ça, il devait passer à la Banque de la République.
Parmi les missions, il n'y avait pas de commerce en ligne?
S'il y avait les missions de commerce en ligne, je pense que par commerce en ligne, quand il y a commerce en ligne, c'est qu'on peut montrer les marchandises en ligne et qu'on peut faire un achat. On paye via les banques, on vous envoie les marchandises. Et s'il y a donc, c'est pas la même chose avec ce que nous avons appris dans les médias.
Pour enregistrer une société, vous vérifiez si ces missions sont conformes à la loi?
Les missions, les actions, chaque fois il y a des agences de régulation. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est l'immatriculation.
Serge Nsabimana, directeur AI de l'agence de promotion des investissements. Pour rappel, des membres de la société CrowdOne ont été appréhendés ce mardi par la police qui les accuse d'escroquerie et de faire la crypto-monnaie que la banque centrale a interdite sur le sol burundais, c'est le contenu de son communiqué du 20 septembre de l'année dernière. Et dans la série des comptes rendus de lecture du code électoral, aujourd'hui nous vous proposons l'activité de dépouillement des résultats. Une activité qui suit immédiatement la clôture du lieu de vote et qui se fait au lieu où s'est déroulé le vote. Cette activité s'effectue sans précipitation jusqu'à son achèvement complet, et cela à l'aide des scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Et cette opération se fait sous la surveillance et la responsabilité des membres du bureau de vote en présence des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis ou des candidats indépendants. Compte rendu de lecture, Charles Makoto.
Le code électoral dans son article 64 prévoit que chaque bureau de vote procède au dépouillement s'y place selon le mécanisme de comptage des bulletins mis dans les urnes. D'une manière exceptionnelle, si le bureau où se déroule le vote ne peut pas procéder au dépouillement, le président du bureau, en concertation avec les membres et les mandataires présents, en fait le constat, le bureau sous sa responsabilité et sous escorte, en compagnie des mandataires, les urnes dans un endroit propice à l'arrivée au lieu convenu. Le président du bureau de vote constate en présence des membres du bureau de vote et des mandataires que les scellés y a posés sont intacts. Le dépouillement proprement dit commence par l'annonce publique du bureau de vote du nombre réel des votants suivant le pointage effectué sur la liste électorale et le nombre réel des bulletins qui ont été distribués aux électeurs. Ensuite vient l'ouverture des urnes et le retrait des bulletins de vote au fil et à mesure. Par après, on procède au dénombrement des bulletins de vote en faveur de chaque parti politique, coalition de partis politiques ou candidat indépendant. Le comptage se poursuit par le dénombrement des bulletins nuls, le dénombrement des abstentions et la vérification de la concordance entre les bulletins distribués par le bureau de vote et les bulletins réellement comptés lors du dépouillement. Le comptage des bulletins se termine par l'établissement d'un procès verbal des opérations de vote et d'ertir la haute voix des résultats en cas de discordance entre les bulletins de vote distribués et les bulletins de vote dépouillés, allant au-delà du seuil fixé par la CENI au cours d'une élection présidentielle ou législative. La CENI saisit la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de ce scrutin au bureau de vote concerné. Quand il s'agit d'une élection communale ou collinaire, la CENI annule le scrutin au bureau de vote concerné. Dans ce cas, elle organise un nouveau scrutin en dehors de 30 jours calendrier. L'article 69 indique que les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès verbal des opérations de vote et des résultats signés par tous les membres du bureau de vote, les mandataires présents et les scrutateurs. L'article 70 précise que nul ne peut, sous peine de sanctions prévues par la loi, emporter hors du bureau un quelconque bulletin de vote. Aussitôt après le dépouillement, le président du bureau de vote fait une lecture à haute voix des résultats et dresse un procès verbal qui clôture cette activité par la signature des membres du bureau de vote et des mandataires.
Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage dit que la production du maïs a presque doublé pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018. Deogi Derurema explique que les 500 hectares qui étaient réservés à la culture du maïs dans certaines régions à forte production de cette denrée ont été largement dépassés. Il l'a dit à Tivitoke ce mercredi lors d'une descente sur terrain pour voir l'état de production du riz et du maïs dans les provinces de Bouvanza, Tivitoke et Kayanza. Écoutez plutôt le ministre en charge de l'agriculture, Deogi Derurema.
Et en janvier, en 2019, nous nous sommes réunis avec les coordonnateurs de tous les projets de la Banque mondiale, d'IFIDA, mais aussi de la BAD pour nous convenir sur le type de réalisation des activités que nous allons mener en synergie sur le terrain. Nous nous sommes entendus qu'on va installer 500 hectares de maïs dans chaque province. Nous sommes venus alors nous rendre compte de l'état d'avancement, de la mise en œuvre de ces recommandations. Et nous avons trouvé ici à Chibitoki, même dans la province de Bouvanza, que les superficies ont été largement dépassées. Ici dans Chibitoki, on a mis en place plus de 1100 hectares de maïs et dans la province de Bouvanza, 2700. Nous avons constaté que des recommandations données, convenues, ont été mises en œuvre de manière très satisfaisante. Deuxièmement, nous avons remarqué que la production agricole au niveau du maïs va augmenter. Dans le passé, le rendement était de 700 à 800 kg par hectare, mais actuellement, avec les résultats attendus, le rendement va aller au-delà de 3 tonnes par hectare et nous espérons 3,5 tonnes par hectare.
C'était le ministre en charge de l'agriculture, Deogi Derurema. Il s'observe à Mairie de Bujumbura une pénurie de limonade produite par la Braroudi. Et certains commerçants de ces boissons disent qu'ils ne trouvent pas où acheter ces boissons. Quant aux consommateurs, même s'ils en trouvent, ils les achètent à un prix élevé. Ils demandent à la Braroudi de bien vouloir fournir ces limonades en quantité suffisante. Suivez Isidore Hawonimana pour les détails.
À l'installer dans la zone Ilibene de Bouiza, nous sommes à Mairie de Bujumbura. Certains commerçants de taillade de boissons de la société Braloudi disent qu'il y a une pénurie de limonade. Ils expliquent que depuis la fin de l'année 2019 jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore eu de vente. Cela est affirmé aussi par l'un des grossistes que nous avons rencontré dans cette zone de Bouiza, où il ne possède que des casiers avec des bouteilles vides de fanta dans son stock à côté des autres boissons. De la part des consommateurs de ces limonades, ils disent que même s'ils trouvent ces fentes, qu'ils les achètent à un prix exorbitant. Que ce soit ces commerçants et les consommateurs, ils demandent à la société Braloudi de bien fournir ces limonades à la quantité suffisante. Nous avons essayé de contacter la Braloudi, mais sans succès.
Merci Isidore. Le gouverneur de la province Karoussi s'insurge contre les administrateurs de certaines communes de cette province qui s'ingèrent dans la gestion des financements des coopératives Sangwe. Barushimana Kalini explique que ces coopératives sont autonomes dans l'exécution de leurs projets. C'est dans l'exécution des projets pour les 10 millions octroyés par le gouvernement à chacune de ces coopératives. C'est au moment où l'on rapporte des lamentations dans certaines des coopératives de certaines communes. Blaise Pascal Kararoumi.
Chaque colline des 145 collines de la province Karoussi a une coopérative Sangwe avec un financement de 10 millions de francs burundais pour le développement de sa population, comme l'indiquent les responsables administratifs de cette province. Le gouverneur Kalini Mbarushimana s'insurge contre certains administrateurs communaux de cette province qui ont donné des chèvres et porcs aux familles rassemblées dans ces coopératives, choisissant des fournisseurs de ces bêtes pour ces coopératives Sangwe. Il explique que chaque coopérative est autonome quant à l'utilisation de ces 10 millions leur accordés par l'État pour financement, signalant que cet argent est en crédit et non en dons comme certains le pensent. Le gouverneur l'a dit ce mercredi lors d'une réunion tenue à l'intention de tous les chefs de colline de la province, les chefs de zone et les administrateurs communaux. C'est au moment où des lamentations sont signalées dans certaines de ces coopératives dans les communes de Nyabikere, commune Buhiga et commune Gitaramuka. Certains indiquent que les bêtes qui leur ont été distribuées dans ces fonds de 10 millions leur ont été données à des prix exorbitants et que certaines de ces bêtes sont déjà mortes. C'est le cas de la coopérative de la colline Shanga à Buhiga où 5 porcs sur les 7 qui leur étaient distribués sont morts. Le gouverneur demande que l'exécution de ce financement soit sur des retraits échelonnés pour éviter des précipitations dans l'exécution de leur projet, explique-t-il. Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro.
Et les filles encore élèves qui tombent enceintes ne devraient pas en principe bénéficier de la gratuité des soins lors de l'accouchement. D'après le président du Sénat ce mercredi lors de sa visite en commune Makamba, cela fait perdre à l'État les moyens qui étaient destinés aux femmes proprement dites, explique Réverien Dikurio, qui ajoute qu'il devrait y avoir un dossier ouvert au parquet chaque fois qu'il y a un élève qui met au monde, et cela dans le but de connaître l'auteur de sa grossesse. Jérôme Hakizimana.
Lors de cette rencontre avec les habitants de Makamba, le président du Sénat a fait savoir que la politique de gratuité des soins liés à l'accouchement ne concerne que les femmes mariées. Néanmoins, il déplore l'existence des centres de santé qui accordent cette gratuité de soins relatifs à l'accouchement aux jeunes élèves, ce qui favoriserait les grossesses précoces à l'endroit de ces dernières. En outre, Révélien Dikulio signale que le fait d'appliquer la même politique à toutes les parturientes prendrait comme risque doublé annuellement le budget consacré à cette politique. Selon lui, pour que les grossesses en milieu scolaire soient éradiquées, il faut qu'il y ait l'ouverture du dossier chaque fois qu'il y a un nouveau-né en milieu scolaire. Il ajoute que cela aiderait également à la connaissance de l'auteur de la grossesse, car, ajoute-t-il, parmi ces derniers figurent même les hommes mariés. Depuis l'année scolaire 2015 jusqu'à 2017, 4500 élèves ont été en grossesse selon toujours le président du Sénat, Jérôme Akizimane, depuis Makamba, Radio Isanganiro.
Merci Jérôme. Dans l'actualité aussi, certaines lampadaires se trouvant sur l'avenue de l'Oiwa ainsi que sur le boulevard du peuple Murundi ne fonctionnent plus. Des batteries et plaques solaires ont été volées. Les usagers de ces routes qui craignent des cas de banditisme demandent aux autorités concernées de remplacer ces lampadaires par des poteaux électriques. Moïse Misago.
Sur la route, lieutenant général Adolphe Nshimirimana, passant devant l'hémicycle d'Okigobe, la plupart de ces lampadaires ne sont pas fonctionnels, des batteries ayant été volées, de même que les plaques solaires, d'autres encore ayant été cognées. La situation se présente ainsi sur la route Oyiwa, passant devant le marché chez Sion. Sur cette route, certains lampadaires sont fonctionnels, d'autres non. Cette situation est similaire aussi sur le boulevard du peuple Murundi, allant du nord de la capitale Bujumbura. Cet habitant déplore le vol de son matériel.
La situation est que partout sur les routes que vous voyez, il y a des lampes qui s'allument, il y a d'autres lampes qui ne s'allument pas, ce qui cause vraiment des problèmes. Les voleurs profitent. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures en charge. Ils ne fonctionnent pas parce que les batteries ont été volées, les plaques solaires aussi ont été volées. C'est ça le problème.
Certains citadins indiquent que cette situation cause de l'obscurité sur ces routes et que des voleurs peuvent profiter de cette situation. Ils demandent que ces lampadaires soient remplacés par des poteaux électriques. La direction générale au ministère de l'énergie et mines indique qu'elle est au courant de cette situation. Le directeur général Martin Daïdzeye ajoute que l'inventaire du matériel volé est déjà établi et qu'il est prévu le remplacement de son matériel ainsi que sa sécurité.
Parlons FA.
La femme joue un rôle important dans la prévention des conflits entre les conjoints. Selon des habitants des collines Munanira 1 et 2 en commune Rutegama de la province Muramvya, la femme peut conseiller son mari quand ce dernier adopte un comportement pouvant générer un conflit. Quant au spécialiste en transformation des conflits Chartière Niungeko, les conflits entre les conjoints sont souvent liés à la gestion des biens familiaux. Les détails avec Vestine Routoy.
Des habitants des collines Munanira 1 et Munanira 2 de la commune Rutegama en province Muramvya disent que la femme est capable de prévenir les conflits entre les conjoints ou dans la communauté. Médiatrice Nizigimana habite la colline Munanira 1. Elle fait savoir que pour que la femme prévienne les conflits dans un foyer, elle doit envisager le dialogue entre lui et son conjoint.
Quand on constate que le problème est déjà là, on ne fait que débattre avec son mari autour de ce problème pour voir comment y remédier.
Égide Ndaïsaba, riverain de la colline Munanira 2, grâce à la douceur naturelle de la femme, cette dernière peut influencer son mari à changer les comportements qui amèneraient les conflits dans le foyer. Cependant, Salvatore Hatungimana, conseiller de l'administrateur communal Rutegama chargé de l'administration et des affaires sociales, déplore que le manque de confiance en soi, ainsi que l'humiliation, soient des défis auxquels est fait face la femme dans son processus de prévention des conflits entre les conjoints.
Et cela provient de la tradition de la culture burundaise parce qu'il y a des fois où les femmes étaient sous-estimées parce qu'on disait que les femmes ne peuvent rien, elles ne faisaient pas partie des Washinganae. Je sais pourquoi les hommes quelquefois disent que les femmes ne peuvent rien.
Chartier Niungeko, expert en transformation des conflits, explique que le conflit entre les conjoints est étroitement lié à la gestion des biens familiaux.
Des fois, les conflits au sein du ménage, c'est autour de la gestion des ressources, c'est autour de la gestion des projets, c'est autour de l'orientation des projets de développement de la famille.
Chartier Niungeko signale que pour que la femme arrive à prévenir les conflits entre les conjoints, elle devrait avoir confiance en elle, puis les hommes à leur tour devraient dépasser la culture burundaise qui n'accordait pas la valeur à la vie d'une femme, dans la mesure où la non-prévention des conflits entraîne le sous-développement des ménages.
Parle, rassure-moi.
Un groupe de gens déshumanisés à long terme finit par être tué. Selon Jérôme Nyonzima, journaliste travaillant dans la transformation des conflits, dans ce cas, l'auteur de ce crime considère qu'il a tué un animal et non pas une personne. Et pour faire face à ce genre de discours, Jérôme Nyonzima propose la sensibilisation centrée sur les conséquences dues au message de haine, dont la déshumanisation. Ornella Mucho.
La déshumanisation commence par les paroles, mais ne s'arrête pas là. Jérôme Nyonzima, journaliste travaillant dans la transformation des conflits, explique certaines conséquences, comme la discrimination et l'exclusion de la société.
Si vous me déshumanisez au niveau du langage, ça peut faire que les gens me déconsidèrent, que je peux perdre les faveurs auxquelles j'avais droit, je peux perdre même les droits, moi et mon groupe, parce qu'on peut dire, ah, ces gens-là, finalement, ce sont des vauriens, alors que je n'ai été qualifié vérifier que devant rien, alors que je suis capable de quelque chose. Une autre conséquence que ça peut avoir, je peux être discriminé de la société parce que j'ai reçu un qualificatif qui m'a fait perdre la valeur humaine. Et les gens peuvent penser que pour être à l'abri de ces dangers, ils peuvent me discriminer et m'écarter.
Ces conséquences se répercutent sur le groupe dans lequel la personne victime est membre. Jérôme Nyandima souligne que c'est la source des violences de masse.
Et au moment où je suis déconsidéré, je vais perdre la qualité humaine et si quelqu'un voudrait m'écraser, il peut même m'écraser disant « mais j'ai écrasé un serpent, c'est pas quelqu'un que j'ai tué ». Ça peut détruire toute une société ou tout un groupe, mener à des conséquences inimaginables, aller même jusqu'à des tueries de masse.
Selon toujours Nyandima, la sensibilisation surtout des acteurs politiques est l'un des meilleurs moyens de prévention contre les messages de haine, dont la déshumanisation.
Pour faire face à ça, il faut comprendre que ce que tu ne voudrais pas vivre, il ne faut pas le faire vivre les autres. Il faut comprendre que avec ces conséquences-là, ça peut un jour se répercuter sur toi ou ton groupe. Et maintenant, il faut comprendre qu'avec toutes ces conséquences, les gens devraient cesser avec ça. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire maintenant? Il faut peut-être sensibiliser les gens, surtout les acteurs politiques, et montrer que ça peut avoir un impact destructif.
Jérôme Nyandima souligne que les messages de haine dans la déshumanisation sont généralement la source de division et de guerre.
Merci Ornella Mucho, merci Jérôme Nyandima pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.